Nous allons maintenant écouter et lire la parole de Dieu pour quelques instants, ce qui nous permettra aussi de contextualiser encore plus ces moments. Et nous allons encore une fois lire un psaume. Cette fois-ci, c'est le psaume 78. Psaume 78, versets 1 à 8. Cantique d'Asaph, c'est celui donc qu'il a écrit. Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Avoir un enfant, c'est nécessairement s'engager dans une grande œuvre de transmission d'héritage. Qu'on le veuille ou non, quand on a un enfant, on a à lui transmettre des choses activement et passivement, implicitement et explicitement. On le sait et on le dit souvent, les enfants font ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Il y a nécessairement un héritage qui passe d'une génération à une autre, nécessairement. Alors pour commencer, il y a l'héritage le plus évident, l'héritage génétique. Il y a forcément une transmission de notre matériel génétique à nos enfants. Mais bien plus, il y a un héritage plus large, un héritage culturel par exemple, les habitudes, les manières d'être, la langue, les traditions qui sont liées à notre culture, à notre ethnie. Il y a un héritage familial que l'on transmet à un enfant, l'histoire de la famille, l'histoire des grands-parents, les traits de caractère des membres de la famille. Parfois, on va transmettre à un enfant une entreprise familiale, un savoir-faire familial. On transmet en général à un enfant, forcément, qu'on le veuille ou pas, un héritage moral, des valeurs, des principes de vie, des traits de caractère, des convictions. Hein, parfois, quand on a été un grand libéral, on va dire, tu seras un grand libéral, mon fils. On transmet nécessairement quelque chose à son enfant, activement ou passivement. Et même, il y a aussi un héritage que l'on transmet à son enfant, un héritage émotionnel. Parfois, nous transmettons à nos enfants une part de nos joies, de notre bonheur, mais aussi une part de nos blessures, une part de nos fragilités. Dans une famille, il y a aussi la transmission des savoirs. On transmet à l'enfant ce que l'on sait, ce que l'on connaît, ce que l'on sait faire. On va lui apprendre à jouer un instrument, on va lui apprendre à maçonner, on va lui apprendre à faire du bricolage, on va l'apprendre à cuisiner. On transmet quelque chose, des savoir-faire. Et on transmet aussi dans une famille, évidemment, on ne l'oublie pas, un héritage matériel, des biens, une maison, des montres, de l'argent, des choses que l'on va transmettre à nos enfants. Et dans tous ces héritages, il y a des choses positives et des choses négatives. Il y a des choses qui peuvent améliorer notre vie, il y a des choses qui peuvent alourdir notre vie. Le texte du psaume que nous avons lu nous parle d'un autre type d'héritage. Il parle de l'héritage spirituel, c'est-à-dire de l'héritage de la connaissance de Dieu, la transmission de la connaissance de Dieu d'une génération à une autre. Et cet héritage est particulier, que c'est un héritage qui sauve. L'héritage de la connaissance de Dieu, c'est un héritage qui sauve. C'est un héritage qui n'a pas juste pour effet de nous mettre à l'abri quelques années, comme ça peut être le cas quand on hérite d'un parent, de se dire « Ah, j'ai une petite somme, au moins je suis tranquille, je serai allé en vacances, voilà. » C'est un héritage qui a un effet, qui est un effet qui dépasse cette vie. Le psaume est un psaume dans lequel Asaph est en train de dire et de proclamer au peuple d'Israël l'importance qu'il y a de transmettre l'héritage de la foi aux enfants. Il s'agit d'un héritage qui concerne Dieu, de parler de Dieu, de faire connaître Dieu, et il s'agit de transmettre l'expérience des croyants d'une génération à une autre. Voyez le verset 3 et 4, « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à nos enfants. » Nous le dirons à nos enfants. Ainsi, les croyants sont invités à transmettre ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils savent de Dieu à la génération prochaine. Ils ne doivent pas se taire, comme dit le texte, ils ne doivent pas cacher ce qu'ils savent, mais ils doivent allègrement le faire connaître à la génération qui suit, le faire connaître à leurs enfants. Et ici, il est question de l'héritage spirituel. Bien évidemment que Roméo sera bien content d'avoir en héritage toutes les belles voitures de son papa. Il sera très content. Bien évidemment qu'il sera capable, il sera heureux d'avoir toutes les compétences culinaires de sa maman. Mais son plus grand besoin, c'est de pouvoir entendre parler de Dieu. C'est d'obtenir de la bouche de ses parents, de ses grands-parents, des membres de sa famille, de son église, un témoignage qui lui permettra de connaître Dieu et de mieux connaître ses œuvres pour pouvoir lui-même devenir enfant de Dieu. C'est un héritage, dit la Bible, qui ne se flétrit pas, c'est un héritage qui ne se fane pas, c'est un héritage qu'on n'oublie pas et c'est un héritage aux effets éternels. Quand on lit ce texte du psaume 78, on voit qu'il y a trois grands axes à la transmission de l'héritage. Premièrement, la transmission de l'héritage consiste à raconter les œuvres de l'Éternel. Dans le verset 4, il dit « Nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Les enfants ont donc besoin d'entendre parler des œuvres de Dieu, des hauts faits de Dieu, de ses prodiges, de sa puissance. Ils ont besoin de savoir que Dieu n'est pas une idée lointaine pour ceux qui voient des éléphants roses ou pour ceux qui aiment bien les dessins animés, mais que Dieu est une réalité, qu'il est vrai, qu'il est unique et que nous pouvons observer, voir ses hauts faits, ses miracles, ses prodiges autour de nous et lui rendre gloire. Roméo a besoin d'entendre parler de Dieu et de ses hauts faits. Il a besoin d'entendre « Oui, Roméo, oui, je te le dis, Dieu a vraiment fait le ciel, la terre et tout ce qui est contenu. Ce monde n'est pas le fruit du hasard. Non, non. Il y a bien un créateur à l'origine de tout ce que nous voyons. » Il a besoin d'entendre « Oui, oui, Roméo, l'être humain a bien été créé par Dieu à l'image de Dieu. L'être humain n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur. » De la création, de changements biochimiques. Il y a vraiment un créateur et tu es fait à la ressemblance de ce grand Dieu. Oui, Roméo, dans l'histoire, Dieu a fait des grandes choses. Il a fait des choses merveilleuses. Il a sorti le peuple juif d'Égypte. Il est apparu à Abraham, il est apparu à Moïse. Il a fait des miracles par Élie, par l'apôtre Pierre. Il a besoin de l'entendre, de le savoir. Oui, Roméo, Dieu a fait une chose merveilleuse pour toi. Il a donné son Fils unique pour que tu puisses être sauvé. Il a offert son Fils pour toi. C'est une œuvre merveilleuse, c'est un prodige pour que tu puisses devenir enfant de Dieu. Oui, Roméo, c'est bien vrai. Jésus est vraiment ressuscité. Nous ne t'amenons pas à l'église juste parce qu'on n'a rien à faire le dimanche matin. parce qu'on s'embête. Nous ne t'amenons pas à la fête de Pâques pour les œufs, mais parce qu'il y a vraiment un tombeau qui a été vide, le tombeau de Jésus. Et depuis des siècles et des siècles, des hommes et des femmes se transmettent ce message d'un Jésus vraiment ressuscité. Il a besoin d'entendre toutes ces réalités merveilleuses, notre cher Roméo, comme dit le texte, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les œuvres de l'Éternel. Alors bien sûr, il a besoin d'entendre parler des grandes œuvres de Dieu, la création, le pardon, le salut, les choses grandioses qu'il a fait. Mais Roméo a certainement aussi besoin d'entendre les gens autour de lui, son papa, sa maman, ses grands-parents, ses tantes, ses oncles, parler de ce que Dieu a fait dans leur vie, à eux. Parce que c'est facile, en effet, de parler de la création. Mais c'est autre chose de dire à un enfant, « Tu sais, mon fils, ma fille, j'étais dans telle situation compliquée de ma vie, je ne m'en sortais pas, et Dieu est venu à mon aide. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a guidé. Tu vois ce que le Seigneur a fait pour moi. Dans tel moment, j'ai vu la fidélité de Dieu. Dans tel moment, j'ai vu que Dieu m'a relevé alors que j'étais au bout du rouleau. » Il a besoin de voir des gens qui ont vécu, qui connaissent de façon expérientielle l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Parce qu'un témoignage, ça se garde beaucoup plus facilement que des belles paroles. Quand on parle des choses lointaines, bah oui, mais quand on parle de ce qu'on a vécu, il a besoin aussi d'entendre ce que les gens autour de lui ont vécu. Il a besoin de témoins des choses extraordinaires que Dieu a faites, et c'est en cela qu'il apprendra et qu'il comprendra pourquoi est-ce qu'il doit louer Dieu. Il comprendra pourquoi il y a tant de musique dans son église locale. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a besoin de passer des heures comme ça, chanter? Mais oui, il le comprendra, il comprendra que Dieu mérite cette louange, cette gloire, pour toutes les choses extraordinaires qu'il a fait dans le monde et qu'il fait dans nos vies. Deuxièmement, on voit dans ce texte que transmettre l'héritage, c'est enseigner la loi de l'Éternel. La transmission de l'héritage de la connaissance de Dieu passe aussi par la découverte de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, de la loi de Dieu. Il a aussi besoin qu'on lui en parle. Voyez les versets 5 et 6. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Les enfants n'ont pas besoin d'entendre dire qu'ils doivent être gentils juste pour avoir une petite gommette verte à l'école ou ce genre de choses. Mais les enfants des chrétiens doivent entendre que Dieu, dans son amour, a donné une loi, des principes de vie pour que nous puissions vivre d'une façon qui lui plaît et qui l'honore. Très souvent, on a transmis aux enfants, et même parfois dans les écoles confessionnelles, on a transmis aux enfants une peur de Dieu, et on leur a transmis une conception de Dieu, de la foi, de la Bible, effrayante, dans laquelle on aurait un Dieu malveillant qui passe son temps à nous interdire tout pour nous rendre le plus malheureux possible. Au contraire, il a besoin d'entendre qu'il y a un Dieu qui l'aime, un Dieu qui lui veut du bien et qui lui donne des principes pour son bien. Il faut qu'il comprenne qu'être chrétien, ce n'est pas seulement se soumettre à des petites règles, tu ne peux pas, tu ne dois pas, il ne faut pas, mais qu'être chrétien, bien plus, c'est souhaiter mener une vie qui plaît à Dieu. Qu'il puisse entendre que c'est beau, que c'est grand de vouloir volontairement librement vivre une vie qui plaît à Dieu et de trouver son plaisir dans le fait de plaire à Dieu. Il a besoin d'entendre, notre cher Roméo, que Dieu l'a aimé le premier, que Dieu a donné son Fils pour lui. Il a besoin d'entendre que les commandements de Dieu, même s'ils sont difficiles, sont pour son bien. Il a besoin d'entendre que la meilleure vie, ce n'est pas une vie où on fait droit à tous nos plaisirs, mais la meilleure vie, c'est une vie où l'on cherche à aimer Dieu et à aimer son prochain. Ça, c'est la best life. La best life, c'est pas à 6 ans d'avoir le dernier VTT Air Max plus 60 qui permet d'aller dans tous les ravels du monde entier. La best life pour un chrétien, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, même quand c'est difficile. Et donc, il a besoin d'entendre, mais oui, Roméo, en tant que chrétien, tu es appelé à aimer Dieu, à aimer ton prochain, même ton ennemi, même le petit garçon qui t'embête dans la cour, tu peux l'aimer, même le sale petit garçon qui se moque de toi au cours de tennis ou au cours de catch, ou tu peux l'aimer. Tu n'es pas obligé d'être quelqu'un, comme souvent, qui ressasse la rancune, la haine, l'amertume, mais tu peux être quelqu'un qui aime parce que Dieu t'apprend ce que c'est d'aimer et de supporter les autres. Il a besoin d'entendre cette loi de Dieu. Il a besoin d'entendre ces principes de Dieu. Il a besoin d'entendre qu'il ne doit pas écouter les voix mensongères autour de lui, mais écouter la voix de la parole de Dieu, la voix du Saint-Esprit, qui lui montre le bon chemin pour sa vie. Il a besoin d'entendre que Dieu veut l'utiliser pour sa gloire, que Dieu lui a donné des dons, des capacités, qu'il est important. Tant de gens aujourd'hui ne sont même pas conscients de leur importance aux yeux des autres, mais il doit lui savoir qu'il est important aux yeux de nous, aux yeux de notre famille, mais bien plus qu'il est important aux yeux de Dieu. Oui, il est important. Il est important qu'il entende ce que Dieu pense. Nous ne devons pas avoir peur d'enseigner aux enfants les principes de Dieu. Ça ne peut que leur faire du bien et ils ne peuvent qu'un jour nous dire merci. Quand on leur enseigne à aimer, quand on leur enseigne à veiller sur leurs pensées pour plaire à Dieu, quand on leur apprend cela, ne laisse pas rentrer la jalousie dans ton cœur, ne laisse pas rentrer le mépris dans ton cœur, ne laisse pas rentrer les images impures dans ta tête, ne laisse pas rentrer le mal en toi. Ça ne peut pas le détruire. Ça ne peut pas lui faire du mal. Ça ne peut qu'au contraire l'aider à grandir. Cherche à être propre en tout temps. Cherche à être propre dans tes mots. Cherche à être propre dans ta façon de regarder, de penser, pour plaire à Dieu. Ça ne peut que lui faire du bien. Ça ne peut que lui faire du bien d'entendre les commandements de Dieu, d'entendre que Dieu nous appelle à respecter nos parents, à leur obéir, à écouter leurs conseils, à nous soumettre à leur autorité, mais aussi que Dieu nous appelle à respecter toutes les autorités. Les policiers, les enseignants, les responsables politiques, les agents de sécurité, quelles que soient les autorités, tu es appelé à les respecter. Entendre la loi de Dieu pour un enfant, quand elle est bien transmise, c'est quelque chose qui peut le structurer, lui faire grandir, et le faire grandir et lui permettre réellement de goûter au bonheur de la présence de Dieu. N'ayons pas peur de parler de la loi de Dieu. N'ayons pas peur de dire que la Bible dit « tu ne peux pas ». Mais n'oublions pas d'ajouter « tu ne peux pas parce que Dieu t'aime ». « Tu ne peux pas parce que Dieu veut ton bien ». À l'adolescence, il pourra entendre « Roméo, c'est vrai que tu es un beau garçon. Il n'y avait pas le choix, tu es le fils de ton père. Tu étais condamné à être beau. Mais ne va pas à gauche, à droite, essayer. Ne te donne pas à toutes les filles qui passent et qui likent ton profil Snapchat. Ça aura déjà évolué d'ici là. Prie Dieu pour qu'il te montre la fille avec qui tu peux fonder ton foyer. Toutes ces choses, quand il les entendra, ne peuvent que lui faire du bien. Dans le verset 7 et 8, on voit que cette transmission de l'héritage de la foi n'a pas juste pour but de respecter ses principes, bien que ce soit important pour nous et pour la gloire de Dieu, mais cette transmission a aussi pour but que nous puissions avoir un cœur ferme, avoir un cœur fidèle à Dieu. Avoir un cœur fidèle à Dieu, un cœur ancré en Dieu. Quel que soit ce qui peut se passer dans la vie, quelles que soient les complications, nous prions que Roméo puisse avoir un cœur ancré en Dieu. Un cœur fidèle à Dieu. un cœur à l'écoute de Dieu. Et cela est aussi valable pour chacun d'entre nous. Troisièmement, nous voyons dans ce texte que la transmission de l'héritage, c'est éveiller l'enfant à la confiance en Dieu. Verset 7, il est dit « afin qu'ils missent en Dieu leur confiance ». Vous avez vu que le texte choisit des expressions, un temps de conjugaison qui n'est pas facile pour nous. « Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance ». La transmission à un enfant des œuvres de Dieu, de ce que Dieu a fait dans le monde, de ce que Dieu a fait dans nos vies, la transmission de la loi de Dieu à un enfant, ça a pour but final qu'il puisse mettre sa confiance en Dieu. Le but final, c'est que les enfants, en écoutant tout cela, puissent placer leur confiance en Dieu. Nous sommes donc responsables de les éveiller à ce que c'est que la confiance en Dieu, à ce que c'est que la foi. La foi, la confiance en Dieu, c'est puissant, c'est puissant. C'est puissant que la confiance en Dieu. Ne nous arrêtons pas, comme on le dit souvent, aux belles façades de nos maisons. Ne nous arrêtons pas aux belles façades de nos rues, qui nous donnent une impression mensongère que tout le monde plane et que tout le monde va bien. On dirait, hein, n'est-ce pas, si vous allez dans les rues ici de Jumet, ou si vous allez à Montigny, ou si vous... On dirait que tout le monde va bien si vous allez à Thouin. À Thouin, c'est une ville céleste, hein, Thouin. On a l'impression que tout le monde va bien à Thouin. Ils ont des grands pachis, ils ont des belles maisons, ils ont une belle rue commerçante avec une pharmacie, avec... ils ont même un petit canal. Et à Thouin, ils ont aussi une rue avec des pavés. C'est très désagréable cette rue, hein. Mais on dirait que tout le monde va bien. On dirait que tout le monde est heureux. Ne nous y trompons pas. Beaucoup de nos contemporains souffrent de ne pas pouvoir faire confiance à quoi que ce soit, d'avoir une vie qui est reléguée à soi-même, sans sens, sans joie. Quand on éduque un enfant, quand on apprend à un enfant la confiance en Dieu, c'est un capital qu'on lui donne, un capital précieux. On peut lui apprendre tout ce que les croyants avant lui ont vécu avec Dieu, tout ce que Dieu a fait dans la vie des autres. On peut lui apprendre que les promesses de Dieu sont vraies. Quand Dieu parle de fidélité, quand Dieu parle d'amour, c'est vrai, Roméo. Quand on dit que la loi de Dieu, elle est bienfaisante, elle est bonne, c'est vrai, Roméo. La confiance en Dieu, elle est merveilleuse parce qu'elle nous permet de pouvoir être en communion avec Dieu. Lorsque je fais confiance en Dieu, je peux être en communion avec lui. Et donc, lorsqu'il entendra de la bouche de ses parents, de la bouche de ses grands-parents, de la bouche des gens autour de lui, Roméo, si tu crois en Dieu, en son évangile, tu pourras devenir enfant de Dieu. Et si tu deviens l'enfant de Dieu, tu pourras te réjouir d'être en communion avec Dieu, de savoir que Dieu te connaît. De savoir que Dieu connaît ta vie, connaît ton chemin, il sait tout de toi. Tu peux t'approcher de lui, même quand ça ne va pas, même quand tu seras déprimé à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, Dieu sera toujours là, le cœur ouvert. Il sera toujours ton père, il te connaît, il te chérit, il prend soin de toi. Il pourra entendre. Tu peux faire confiance à Dieu. Tu peux avoir une relation avec Dieu. Tu peux laisser ta vie être remplie de l'amour de Dieu. Il pourra entendre. Tu peux offrir ta vie à Dieu. Tu ne perds rien. Il pourra entendre ces paroles de l'Écriture, comme disait David, « L'Éternel est mon bouclier, mon libérateur, ma force, mon rocher, mon appui, ma haute retraite. » Ça, c'est un capital chance quand on commence la vie, hein, d'avoir entendu il y a un Dieu qui m'aime, c'est mon libérateur, c'est ma force, c'est ma paix, c'est mon rocher. C'est un capital chance d'entendre, tu sais Roméo, auprès de Dieu tu trouveras toujours la lumière, la joie, la paix, la consolation, la restauration, la délivrance, le pardon, le renouvellement intérieur, toujours, 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 toujours. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit le mal que tu fais, Quel que soit ce que les autres te font, quel que soit le monde dans lequel tu vis, tu trouveras toujours cela auprès de Dieu. Et puis finalement, c'est une grâce que dès son jeune âge, il entende. Parce que c'est une question qui viendra très vite. Il y a toujours un âge pour ça. Tu sais, tu n'as pas à avoir peur de la mort. Parce que si tu crois en Jésus, tu es enfant de Dieu, ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Et tu recevras un héritage pour toujours dans sa présence, quelles que soient tes années à venir. Non, non, n'en fais pas ton sujet de peur, mais place ta confiance en Dieu. Pour conclure, le plus grand des héritages, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, ce n'est pas un héritage matériel. Là-dessus, on peut tous être d'accord. Mais dans le texte ici et dans cette rencontre dans laquelle nous sommes, nous pouvons nous souvenir, et c'est pour ça que nous sommes là, que le plus grand héritage pour un chrétien, c'est l'héritage de la connaissance de Dieu. C'est le plus grand héritage. C'est un héritage que nous recevons lorsqu'on accepte Jésus, son Fils. Et c'est un héritage qui a cette force de nous donner la vie éternelle, de nous faire passer de la mort à la vie. Et cela est vrai pour Roméo, mais aussi pour chacun de nous. Lui, il a besoin de l'entendre, d'entendre parler de cet amour de Dieu, de son statut d'enfant de Dieu, du bonheur d'une vie qui plaît à Dieu, des bénéfices de la communion avec Dieu, parce que c'est ce qui est le meilleur pour lui, pour son aujourd'hui, pour son demain, pour sa vieillesse, c'est le meilleur pour lui. Et nous aussi, nous sommes invités à pouvoir recevoir son Fils pour jouir de ses réalités. Ce serait triste qu'on prie pour lui, pour qu'il puisse connaître Dieu, grandir avec Dieu et autres, et nous-mêmes en être exclus. Au contraire, nous sommes invités à entendre ses paroles de vie éternelle, à les lui transmettre, mais aussi à les recevoir pour nous-mêmes. Cette présentation que nous allons vivre dans quelques instants doit à tous nous rappeler l'importance de cet héritage. La force de cet héritage, la force de cet héritage de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de cet amour qui peut remplir et porter nos vies. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te louons, nous te rendons grâce pour toutes choses. Et nous te prions, Seigneur, pour que dans ce moment de la présentation de Roméo, nous puissions tous avoir un cœur ouvert à ta grâce. Un cœur ouvert à ta présence, et également, Seigneur, voir la grandeur de cet héritage que tu nous appelles à transmettre à nos enfants, mais aussi à transmettre à nos amis, à nos contemporains. Un héritage qui sauve. Merci, Seigneur, pour cet héritage. Amen. Nous allons chanter le 20 dans les recueils.